SBS Radio.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 13 août 2019. À Hong Kong, l'aéroport rouvre progressivement après avoir été fermé hier en raison d'une manifestation massive qui s'y est déroulée. En Australie, un rapport indépendant appelle le gouvernement à investir très massivement dans les transports pour soutenir la croissance de la population. Et dans le cadre de négociations avec l'Union européenne, des producteurs australiens pourraient être obligés de changer le nom de certains de leurs produits phares, comme le feta ou la feta, pardon, ou le prosecco, qui sont des appellations d'origine contrôlée en Europe. Et on commence ce journal avec l'aéroport de Hong Kong qui reprend aujourd'hui doucement ses activités. Cet aéroport, qui est le 8e le plus fréquenté du monde, a été fermé hier, lundi, alors que des milliers de manifestants y ont organisé un sit-in. La décision de fermer l'aéroport et l'annulation de tous les vols de l'après-midi a déclenché des scènes de chaos qui sont devenus au fil des semaines, et l'aéroport donc est devenu au fil des semaines un lieu majeur de rassemblement pour les manifestants pro-démocratie qui voient dans ce lieu où se croisent des gens venus du monde entier un moyen d'interpeller directement la communauté internationale. Tout de suite, on écoute le reportage de Christophe Paget pour RFI.
La foule est affolante. Des milliers de jeunes en t-shirt noir occupent tout l'espace. Hall, escalator, passerelle, siège, rambarde, et ils continuent d'en arriver toujours plus. Beaucoup portent un bandeau sur l'œil, comme l'eau.
Je l'ai peint avec de la peinture rouge. C'est à propos de l'incident d'hier soir. Une jeune fille, je crois que c'était une secouriste, la police lui a tiré dans l'œil. Je crois qu'elle est aveugle maintenant, de l'œil droit.
Un petit groupe scotche des affiches.
J'ai fait ce poster pour dire aux touristes qu'il est arrivé quelque chose d'horrible hier. On ne pouvait pas accepter que la police fasse cela. Nous sommes des citoyens normaux, on ne fait que manifester. Là où j'étais hier, la police a tiré des gaz lacrymogènes.
Et elle l'a fait à l'intérieur, dans une station de métro, ce qui est illégal. Et nous, on ne peut se plaindre nulle part, parce qu'en fait, tous les services, le gouvernement, c'est pareil. Donc nous, les Hongkongais, on n'a en quelque sorte aucun espoir. Et c'est pour ça qu'on vient à l'aéroport, qui est international, pour faire savoir ce qui se passe à Hong Kong.
Lutter pour la liberté, soutenir Hong Kong.
Des manifestantes collées aux rambardes brandissent des pancartes vers les touristes qui débarquent, en anglais mais aussi en allemand, et hurlent littéralement « Vanille ».
Je pense que c'est vraiment une bonne idée de crier des slogans dans l'aéroport. La plupart des touristes continuent de marcher, mais après ça, je pense qu'ils sauront ce qu'il se passe.
Mauvaise police, rends-lui son œil.
Christophe Paget, Hong Kong, RFI.
Et on reste en Asie pour parler de la guerre commerciale qui se joue actuellement entre le Japon et la Corée du Sud. Les relations commerciales entre les deux pays se sont profondément dégradées ces dernières semaines, avec pour point de départ la décision du Japon de renforcer les contrôles sur les exportations de matériaux chimiques vers la Corée du Sud, matériaux qui sont indispensables pour des entreprises telles que Samsung qui en ont besoin pour fabriquer des semi-conducteurs. Séoul a répliqué hier en sortant le Japon de sa liste de partenaires commerciaux privilégiés, tandis que sur place, de plus en plus de Coréens ont décidé de boycotter les produits japonais. À Séoul, le reportage de Frédérico Jardias pour RFI.
Les Coréens sont furieux des représailles économiques japonaises et ont lancé un vaste mouvement de boycott. Les manifestations se multiplient à Séoul, où des militants nationalistes détruisent en public vêtements et bières importés du Japon. 7 compagnies aériennes ont dû réduire leur vol vers l'archipel en raison de la chute du nombre de voyageurs. La chaîne d'habillement Uniqlo a reconnu que ses ventes avaient baissé. Dans la ville de Busan, un restaurant refuse de servir les clients japonais. Ce mouvement de colère ressemble parfois à une chasse aux sorcières. Un politicien a ainsi été critiqué pour avoir bu du saké dans un restaurant japonais, et ceux accusés de sympathie pro-japonaise sont qualifiés par des politiciens de collabos, une insulte qui fait référence aux Coréens qui ont ont collaboré avec l'occupant colonial nippon au début du siècle dernier. Le conflit avec le Japon prend ainsi une tournure radicale, ce qui ne facilite pas la recherche d'une solution diplomatique à une guerre commerciale qui met en péril l'économie des deux pays. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Et puis aux États-Unis, la polémique autour du décès de Jeffrey Epstein continue d'enfler. Alors que les théories conspirationnistes fleurissent autour du suicide supposé de cet ancien financier dans sa cellule, le procureur général des États-Unis, William Barr, a annoncé qu'il y avait eu de graves irrégularités à la prison fédérale de New York où Jeffrey Epstein était détenu et a été retrouvé mort samedi dernier. Des irrégularités qui irritent William Barr au plus haut point. Il demande d'ailleurs une enquête approfondie. On l'écoute.
We will get to the bottom of what happened, and there will be accountability. But let me assure you that this case will continue on against anyone who was complicit with Epstein. Any co-conspirators should not rest easy. The victims deserve justice, and they will get it.
Et on part maintenant pour l'Italie, où le Sénat doit se réunir aujourd'hui pour se mettre d'accord sur une date pour le vote d'une motion de défiance à l'égard du gouvernement. Depuis les dernières élections, le pouvoir est détenu en Italie par une coalition rassemblant des élus du mouvement 5 étoiles, plutôt classés à gauche, et des élus de la Ligue, elle clairement d'extrême droite. Et cette alliance a fini par voler en éclats la semaine dernière, alors que le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a le premier déposé une motion de défiance à l'égard du Premier ministre Giuseppe Conte dans l'espoir de lui prendre sa place à l'issue d'élections anticipées. Sur place, on fait le point avec Juliette Gerbrandt pour RFI.
Le 19 août, le 20 peut-être, voilà les dates qui circulent pour une réunion du Sénat italien qui votera ou pas la défiance du gouvernement. Mais dans tous les cas, la fin de la coalition Ligue Mouvement 5 étoiles est actée. Et au lendemain du vote, le président de la République, Sergio Mattarella, commencera ses consultations pour connaître les intentions des partis politiques. Impossible de savoir comment les choses se passeront, les principaux partis, hormis l'extrême droite, étant très divisés. Le président essaiera de trouver soit une nouvelle majorité politique, soit une majorité de circonstances qui soutiendrait un gouvernement technique. Mais il devra peut-être dissoudre le Parlement, même s'il ne le souhaite pas. Les élections auraient alors lieu au mois d'octobre. C'est exactement ce qu'espère Matteo Salvini, qui a pour l'instant le vent en poupe avec 37 à 39% d'intention de vote pour la Ligue, selon les sondages. Les tractations politiques vont donc bon train. D'une part, entre la Ligue, Forza Italia et le parti ex-mussolinien Frères d'Italie, qui pourrait se présenter uni devant les électeurs. D'autre part, dans le mouvement 5 étoiles et au sein aussi du Parti démocrate, où certains seraient prêts à s'allier sur fond de front républicain contre Matteo Salvini, qui a clairement réclamé aux électeurs les pleins pouvoirs.
En Norvège, l'homme suspecté d'avoir tiré sur des fidèles à l'intérieur d'une mosquée a été présenté à un tribunal lundi, où il est apparu avec les deux yeux au beurre noir et des traces de coups au visage et sur le cou. Le tribunal a décidé d'autoriser la police à le garder en détention pendant au moins 4 semaines, tandis que l'enquête le concernant va avancer. Le chef de la police norvégienne, qui a qualifié cette attaque de terroriste, rappelle pour sa part que le suspect avait exprimé des opinions hostiles à l'égard des immigrants avant de passer à l'acte.
It's important for us to continue to look at the terror angle and investigate further, particularly if someone else was involved. We have no reason to believe so thus far, but that's where the investigation is going now.
On se penche maintenant sur l'Australie, où des auditions dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur la liberté de la presse sont en cours en ce moment à Sydney. Les principaux dirigeants des grands groupes de médias australiens comme News Corp, ABC et le groupe Nine vont être entendus aujourd'hui par le comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité. Cette commission d'enquête en fait fait suite aux perquisitions effectuées il y a quelques semaines par la police fédérale australienne au domicile d'un journaliste de News Corp et dans les bureaux de la chaîne ABC à Sydney, et ce dans le cadre d'une enquête sur des fuites de documents confidentiels et très compromettants pour le gouvernement australien. Pour le directeur exécutif de News Corp, Michael Miller, il faut changer les lois relatives à la sécurité nationale car il estime qu'en l'état, elles portent une atteinte grave à la liberté de la presse.
We have many laws that criminalize journalism. They are creating a secret society that most Australians would not recognise as our own. We may not be living in a police state, but we are living in a state of secrecy.
Et puis, si vous trouvez qu'il y a de plus en plus de bouchons et que les transports en commun sont de plus en plus bondés dans les grandes villes australiennes, c'est en fait parfaitement normal. D'après un audit publié aujourd'hui par Infrastructure Australia, l'Australie doit absolument investir très massivement dans les infrastructures de transport pour soutenir la croissance de la population qui est l'une des plus élevées au sein des pays de l'OCDE. Ces dernières années, le gouvernement fédéral, tout comme les États australiens, ont annoncé des investissements colossaux pour renforcer et moderniser les transports en finançant par exemple la construction de nouvelles routes ou de nouvelles lignes de métro. Résultat, il y a des travaux un peu partout et pour Infrastructure Australia, cet état de fait doit devenir la norme pour que les grandes villes australiennes ne se retrouvent pas complètement congestionnées. D'ailleurs, le directeur général d'Infrastructure Australia, qui est une autorité indépendante, estime que les projets massifs en cours à Sydney et Melbourne ne sont que des projets visant à rattraper leur retard en la matière. On écoute Romilly Madio.
There is one clear message that is emerging from the audit, and that is a new wave of investment and reform is needed to ensure Australia's infrastructure continues to support our quality of life and economic productivity over the next 15 years. The current infrastructure program must do more to plug more than plug the immediate funding gap. It needs to deliver long-term changes in the way we plan, fund and deliver infrastructure.
Et puis, pour finir cette page d'actualité australienne, un mot sur l'accord de libre-échange en cours de négociation avec l'Union européenne. Un accord qui doit booster les échanges entre les deux parties, qui s'élève déjà à 100 milliards de dollars par an. Mais le sujet qui fait patiner ces négociations, c'est la question des appellations d'origine contrôlée. Bruxelles a clairement fait savoir à Canberra qu'il n'y aurait pas d'accord si les Australiens qui produisent par exemple de la feta, du gorgonzola ou encore du scotch beef n'abandonnaient pas ces termes qui sont donc protégés en Europe. Évidemment, le sujet inquiète beaucoup les producteurs australiens de fromage ou de vin comme le Prosecco par exemple qui est également concerné et qui craignent que leur entreprise ne périclite si on leur impose de changer le nom de produit que pour certains ils vendent depuis des années et des années. Le ministre australien du commerce, Simon Birmingham, vient de publier la liste des produits concernés. Elle est assez longue puisqu'elle contient plus de 400 références au sein desquelles on trouve donc des fromages, de la viande, des fruits, des légumes et aussi donc des alcools. Simon Birmingham précise également que le gouvernement australien n'a pas encore décidé s'il allait accéder aux demandes européennes ou pas. On l'écoute.
They've given us a list of terms. We're publishing it to hear what Australian industry thinks. The EU is a huge potential market for Australia. It's around 500 million people. It's already our third largest export partner, even though we have significant trade restrictions in terms of the volume and price at which we can sell goods in the EU. So huge potential upside for us, but this is one of the EU's demands. We're looking at it and considering it, and we'll go and talk to Australian industry about it.
Et puis on jette maintenant un œil à la météo de ce mardi. Il y a des averses à Perth où il fait malgré tout 20 degrés, 14 degrés à Adélaïde qui est sous les nuages, 13 degrés à Melbourne et quelques ondées, 15 degrés à Hobart, 14 degrés à Canberra où il fait beau. Il fait beau aussi à Wollongong avec 17 degrés, idem à Sydney avec 19 degrés. Il fait 23 degrés à Brisbane où il y a quelques nuages et il fait grand soleil à Cairns avec 26 degrés, tout comme à Darwin, 32 degrés.
Français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.